Alors, on est dans le cours de survol de la Bible, Ancien Testament, la portion des livres prophétiques dans les petits prophètes, le prophète Abdias. On va se courber ensemble dans un mot de prière pour commencer. Alors, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes réunis ce dimanche pour célébrer la Pâque, pour se rappeler ce que tu as fait pour nous, ton courage, ton amour, ta compassion, Seigneur, ton zèle pour servir ton Père et te donner pour notre salut, Seigneur. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui, on célèbre ton sacrifice, mais aussi ta résurrection. Seigneur, viens remplir nos cœurs de joie, viens nous préparer à adorer tout à l'heure en assemblée, par nos chants, par nos louanges, en revoyant encore, en repassant, Seigneur, ces moments extraordinaires où les apôtres, les disciples sont arrivés devant ce tombeau vide. Ben, ce matin, nous nous penchons sur le livre d'Abdias, un moment de jugement encore, Seigneur. Un moment où nous voyons ta grandeur, ta majesté, ta sainteté. Et Seigneur, voir combien tu es souverain, combien tu es puissant, que c'est toi qui règnes et domines sur toutes choses, nous rappelle qu'un jour, viendra où toutes les nations de la terre, tous les hommes comparaîtront devant toi. Et ce n'est plus dans ta douceur et dans ta candeur, Seigneur, que les hommes te rencontreront, mais dans ton courroux, dans ta colère, dans ta sainteté, ta justice. Je te prie, Seigneur, de parler à nos cœurs, de remplir nos cœurs d'une sainte crainte de ton nom, de remplir nos cœurs, Seigneur, de paix aussi et d'espoir, sachant que tu veilles sur ton peuple et tu le protèges, et de savoir, Seigneur, que tu as de bons projets pour nous, comme on va le voir ensemble dans ce livre ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, on est dans le livre d'Abdias. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous êtes préparés en relisant le livre d'Abdias cette semaine. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, sans regarder dans mes notes, s'il vous plaît, tout de suite, là, à moins que vous les ayez déjà regardés, mais le livre d'Abdias puise ses racines, plonge ses racines dans un moment historique beaucoup plus tôt dans l'histoire. C'est comme si on a une espèce de résolution de l'histoire ici dans le livre d'Abdias. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quel peuple va être jugé à travers le livre d'Abdias? On va aller chercher votre culture biblique un petit peu. Ce sont les Édomites. Les Édomites viennent de qui? C'est la descendance de qui? La descendance d'Ésaü. La descendance d'Ésaü. Alors, dans ce petit livre-là, ce petit prophète-là, on a quelque chose vraiment d'intéressant qui se passe parce qu'on voit, en quelque sorte, là, la fin des prophéties qui avaient été faites, des promesses, des prophéties qui avaient été faites sur Ésaü et Jacob lors de leur naissance. C'est comme si on a une résolution de cela des siècles plus tard parce que Dieu va accomplir son jugement de manière ultime, si je peux dire, contre la descendance d'Ésaü. En même temps, ça nous parle de Dieu. Ça nous parle de la fidélité de Dieu à ses promesses. Ça nous parle du Dieu qui n'oublie pas ce qu'il promet parce qu'il va l'accomplir même beaucoup plus tard. Et donc, on va aller voir tout à l'heure, on va placer ça un petit peu dans l'histoire. On va retourner dans le récit de Jacob et d'Ésaü pour ceux peut-être qui n'ont pas la connaissance de cette histoire-là. Donc, c'est ça, dans l'introduction, ce que je mentionne, le livre d'Ésaü puise ses racines à la naissance de deux jumeaux, Jacob et Ésaü, enfants d'Isaac et de Rebecca. Dans ce court livre prophétique, nous assistons à l'aboutissement de promesses de jugement sur Ésaü et de protection et de bénédiction sur Jacob. D'accord? Donc, on pourrait dire que le thème de ce livre-là, c'est le peuple orgueilleux d'Édom qui est jugé ou qui va être jugé par Dieu. Mais on pourrait aller plus loin que ça aussi. Ça parle de la fidélité de Dieu, ça parle de la fidélité de Dieu à ses promesses, ça parle de la protection de Dieu. On met l'accent sur le jugement qui est fait contre les Édomites. Mais c'est un jugement qui est fait contre les Édomites à la faveur d'Israël. Donc, ça parle de la protection de Dieu pour ses enfants. Date de rédaction. La date de rédaction, honnêtement, les meilleurs commentateurs sont divisés. On n'a pas vraiment de certitude, là. On le résume ici un petit peu. Un élément qui est problématique, c'est qu'Abdias lui-même, on n'a pas d'autres informations sur ce prophète-là que ce qui est dans ce livre-là. Donc, le positionner précisément dans l'histoire, ce n'est pas tout à fait possible. Alors, ça nous laisse avec deux hypothèses, d'accord? Certains commentateurs voient cette description comme étant la révolte des Édomites, qui est décrite dans 2 Rois 8-20, Il y a quand même beaucoup de référents historiques à aller lire sur Édom pour comprendre un peu mieux l'histoire de ce peuple-là dans son rapport avec Israël. Donc, ça pourrait être à ce moment-là, mais si vous regardez le petit paragraphe en dessous, d'autres voient cet événement comme étant la prise de Jérusalem par Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Et donc, il y a vraiment deux options. D'accord? On est au moment de la déportation ou on est beaucoup plus tôt avant. L'auteur, comme j'ai mentionné, est mentionné au début du livre, comme j'ai dit, est mentionné au début du livre comme étant l'auteur, c'est Abdias, mais on ne possède pas d'autres informations sur Abdias. Alors, il y a quelques-uns des petits prophètes comme ça où on a très, très peu d'informations sur le personnage. C'est pas un livre qui a été remis en question dans son inspiration biblique. Les Juifs n'avaient pas de débat autour de ce livre-là. Il a été reçu tôt dans le canon des Écritures de l'Ancien Testament. D'accord? Donc, c'est pas polémique de fait de ne pas savoir exactement qui est l'auteur, qui est Abdias. Malheureusement, ça ne nous donne pas beaucoup plus d'informations pour comprendre son message. D'accord? Si on regarde la structure du livre, la semaine dernière, j'ai parlé d'une structure de lettres ou d'écrits de l'époque qu'on trouve à différents dans d'autres écrits à l'extérieur des Écritures à cette époque-là qui sont comme des lettres de poursuite pour bris d'alliance. Vous vous rappelez de ça? La semaine dernière, on a parlé de ce que ça pouvait ressembler lorsqu'il y avait un bris dans une alliance et qu'il y avait quelqu'un qui accusait, qu'un roi, admettons, accusait un peuple de ne pas avoir respecté une alliance. Ça ressemble beaucoup à ça au niveau de la structure, d'accord? Donc, il est annoncé dans les versets 1 à 9, la destruction imminente sur Édom et décrit quelles sont les mauvaises actions d'Édom contre son peuple frère, qui est Jacob, Israël. D'accord? Abdias va utiliser alternativement les termes Édom puis Ésaü pour parler du même peuple, puisque Édom, c'est la descendance d'Ésaü. Et la même chose, Israël, Jacob, c'est encore une fois le même groupe d'individus. Israël, c'est l'autre nom qui était donné à Jacob, mais c'est la descendance de Jacob aussi. Et donc, dans ma structure, la méchanceté d'Édom envers Israël, qu'est-ce que Dieu leur reproche? Il annonce le jugement, qu'est-ce qu'il leur reproche? Le jour de l'Éternel est annoncé sur Édom et sur les nations, puis la délivrance à venir d'Israël revient encore. Et c'est là que Dieu, dans sa lettre de poursuite, se démarque. Il y a toujours cette notion-là de grâce. Il n'y a pas de reproche fait contre Israël dans ce livre-là. D'accord? C'est vraiment un jugement sur Édom. En général, si vous vous rappelez, admettons la semaine dernière avec Amos, Dieu juge les nations, mais juge Israël aussi pour ses péchés. Ici, essentiellement, Dieu va juger Édom. Alors, je vous lis le livre. Exceptionnellement, on peut se permettre de le lire. Il y a juste 21 versets. D'accord? Abdias 1, prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous. Alors, juste pour le remarquer dès le départ, là, il s'adresse aux nations et il convoque les nations à venir frapper Édom. D'accord? Encore une fois, toujours l'idée de la souveraineté de Dieu sur l'ensemble des nations. Donc, nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Et puis là, Dieu prend la parole. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même, « Qui me précipitera jusqu'à terre? » Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers hautement seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Dans le sens d'un cri de réjouissance. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Et donc l'image ici, là, parce que je ne reviendrai pas tout à l'heure, il y a beaucoup la notion de la coupe de la colère de Dieu. D'accord? Fait que c'est une image, c'est poétique, c'est poésie violente, on s'entend, mais c'est poétique. D'accord? C'est pas poétique dans le sens de beau, joli et cute, là, mais c'est poétique. Et donc, l'idée qu'on a au verset 15, « Car le jour de l'Éternel approche où toutes les nations, pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres tomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, comme vous êtes allé souiller ma montagne sainte, faire des réjouissances-là au mépris de mon peuple, au mépris de mon nom. Ainsi, toutes les nations boiront sans cesse jusqu'à ne plus être. » Et vont boire quoi? Vont boire la coupe de la colère de Dieu. D'accord? Et donc, on passe d'une image à une autre. Vous avez voulu comme me mépriser, bien, je vais vous remplir jusqu'à ce que ça vous extermine. Et c'est ça que je vais faire. Mais si le salut sur la montagne de Sion, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Encore une fois, une image ici, mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Qu'est-ce que la flamme fait au chaume? Évidemment, elle le brûle. Qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. On a parlé un petit peu la semaine dernière, le jour de l'Éternel, c'est une expression qui est utilisée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, qui était bien développée Amos, je me souviens bien. La meilleure manière de résumer le jour de l'Éternel, c'est le jour, c'est pas nécessairement une journée, mais c'est le moment où Dieu se lève pour intervenir. D'accord? Dans certains cas, c'est une promesse de bénédiction. Alors, si tu es en train de marcher avec Dieu, si tu es fidèle à Dieu, puis Dieu a permis que tes ennemis soient contre toi, au jour de l'Éternel, c'est une mauvaise nouvelle pour tes ennemis, c'est une bonne nouvelle pour toi, d'accord? Donc ça, mais c'est un moment, c'est un jour de jugement, mais c'est un jour de bénédiction aussi pour ceux qui marchent avec Dieu, d'accord? C'est aussi un jour de délivrance. Donc, c'est pas nécessairement, ça n'a pas toujours une connotation négative. Des fois, c'est une connotation positive parce que c'est une délivrance. Ce n'est pas nécessairement un jour précis. Mais la manière que c'est utilisé généralement, là, je ne sais pas s'il y a des exceptions, je vous avoue, c'est comme une période, un moment où Dieu intervient de toutes sortes de manières. Alors, au jour de l'Éternel, ça serait définitivement aussi au retour de Christ, d'accord? Et là, ça ne sera pas nécessairement à travers les nations. Ça peut être Dieu qui intervient par des cataclysmes naturels, lui-même directement. Ben, ça pourrait parler de la même chose, mais ce n'est pas la même expression.
Non, ce n'est pas la même expression. Mais il permet de dire, en son temps, Dieu fera ces choses, et c'est le jour de l'Éternel.
Oui, ben c'est ça. On trouve l'expression à plusieurs reprises, là, lorsque les temps seront accomplis, tout ça. Oui. Ça parle plutôt...
On parle de temps, mais aussi, on dit, il y a une promesse de
Oui, c'est ça. Toute l'expression « en son temps », « lorsque les temps seront accomplis », tout ça, c'est une, ça parle de promesses pour nous rappeler que Dieu est fidèle. Dans le cas du jour de l'Éternel, ce que ça décrit, c'est le Dieu qui se lève. La meilleure image que j'ai pour vous, là, c'est Dieu se lève puis il intervient. C'est la patience de Dieu est arrivée à son comble et Dieu intervient. Fait que, oui, c'est en son temps, mais en son temps, on parle plus d'espérance. Puis le jour de l'Éternel parle davantage de jugement et de délivrance. Ouais. C'est bon. Encore une fois, et là, j'ai, dans les derniers cours, j'ai pris à quelques reprises le temps de placer un petit peu ça dans le contexte de toute la création. Et donc, là, si vous lisez un livre comme celui-là, Abdias, et puis, écoutez, c'est violent. C'est très violent ce qui est le langage qui est utilisé ici. Et si pour vous, entendre ça, lire ça, c'est quelque chose qui, ouf, ça vous met vraiment mal à l'aise avec Dieu, avec la parole de Dieu, tout ça. Je ne vais pas le refaire ce matin, parce que ça va être redondant pour ceux qui sont réguliers dans le cours, tout ça. Mais je vous invite à prendre le temps d'aller écouter les leçons précédentes. Elles sont toutes sur le site web, d'accord? Mais pour bien comprendre ça, il faut saisir qui est Dieu. Il faut saisir la création. Il faut saisir où nous sommes dans la création. Autrement, on a l'impression on a l'impression qu'on assiste à une scène où tu as un enfant qui s'amuse avec sa loupe et des petites fourmis. D'accord? C'est le feeling que ça nous donne. Et il y a quelque chose de profondément injuste, d'accord? Ce serait, dans le sens péjoratif du terme, machiavélique. Ça l'est lorsqu'un enfant s'amuse avec sa loupe et s'amuse à griller des fourmis, d'accord? Et donc, ça le serait si c'était à ça qu'on assiste ici. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, ce qui est en train de se passer ici. Dieu est en train d'exercer le bien. Et tant aussi longtemps que vous n'arrivez pas à lire des passages, des livres comme ceux-là, en saisissant que Dieu est vraiment en train de faire le bien, ce qu'il y a de mieux. C'est pas juste une question d'un Dieu puissant qui a été comme froissé, insulté par des vermisseaux qui ont porté atteinte à son nom. Non, Dieu est en train d'exercer la justice, ce qu'il y a de bien pour tout l'univers. Et si Dieu fermait les yeux, n'exerçait jamais la justice, c'est tout simplement que là, Dieu serait machiavélique. Si Dieu n'exerçait pas la justice, si Dieu n'intervenait pas un jour pour juger toute l'humanité, Dieu serait profondément machiavélique parce que ça voudrait dire qu'il s'est construit un autre univers quelconque, si c'était possible. Si c'était possible pour lui de quitter un univers, lui qui est omniprésent, d'accord? Mais là, vraiment, il aurait mis la clé dans la porte, il serait allé voir le diable, puis il aurait dit, tiens, je te donne les clés, tu fais ce que tu veux avec eux, moi je m'en vais en vacances, d'accord? Et c'est ça qu'il aurait fait si Dieu n'intervenait pas pour juger l'ensemble de l'univers, juger l'ensemble des nations, juger l'ensemble des hommes à travers tous les temps. Là, Dieu serait profondément cruel, d'accord? Parce qu'il livrerait l'humanité à un monde absolument chaotique entre les mains du diable. Et chaque fois que Dieu intervient comme ça, il nous rappelle qu'il est bon. Maintenant, peut-être dans votre oreille, vous dites, Yannick, c'est fini, je ne reviens plus à cette église-là. Tu viens de dire l'affaire que je ne voulais pas entendre. Ça, c'est pas Dieu est bon. Mais si c'est ça que vous entendez, si c'est comme ça que vous voyez cela, vous ne saisissez pas la personne de Dieu. C'est pas méchant là, ce que je vous dis. Là. Vraiment, vous ne comprenez pas l'univers. Où est-ce qu'on est là-dedans? Qui est Dieu? Et qu'est-ce que c'est la justice, la sainteté? Alors, je vous encourage à aller écouter les précédents cours. D'accord? Depuis qu'on est dans les livres prophétiques, depuis qu'on arrive dans les livres prophétiques qui annoncent des jugements contre toutes les nations, j'ai pris le temps à quelques reprises de revenir sur ces concepts-là. C'est vraiment des idées fondamentales pour bien comprendre et les Écritures, et notre place dans l'univers. Oui. J'ai juste manqué la fin de votre phrase. On ne voit pas quoi? L'action de Dieu. Juste pour être certain que je comprends bien votre question, après je vais la répéter pour l'enregistrement. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous ne voyez pas dans les Écritures que Dieu dit qu'il se sert d'un peuple païen pour juger un peuple païen, ou vous ne comprenez pas en quoi ce serait une action de Dieu de faire ça? A ou B? Vous ne le voyez pas dans les Écritures, c'est ça? OK. OK. Alors oui, il y a plusieurs reprises dans les livres prophétiques. La question qui est posée, c'est... Mais le commentaire au départ, c'est qu'on a l'impression que tout ça nous parle juste de l'histoire d'Israël, dans un sens, et des interventions de Dieu en faveur ou en défaveur d'Israël. Et on ne verrait peut-être pas dans les livres prophétiques comment Dieu intervient parmi les nations lorsque son témoignage, son nom n'est pas là au milieu des nations. Dans les livres prophétiques, à plusieurs reprises, il nous est mentionné clairement que Dieu juge d'autres nations par d'autres nations, par Israël, mais par d'autres nations aussi. Je vous dirais que dans l'Ancien Testament, à moins que je fasse erreur, là, mais dans l'Ancien Testament, les psaumes, les livres prophétiques, c'est pas mal l'endroit où on comprend mieux comment Dieu voit et traite avec l'ensemble de la terre. Parce que c'est là qu'il y a davantage question des autres nations. On l'a un petit peu dans le Pentateuque, là, au début, lorsqu'on voit quelle est la mission d'Israël, comment Israël doit être un témoignage envers les nations environnantes, tout ça. Et donc, on voit que Dieu a une perspective pour les autres nations. Israël avait un mandat missionnaire, comme nous, on a un mandat missionnaire d'aller vers les gens à l'extérieur et leur parler de Dieu. Donc, on voit ça un petit peu dans le Pentateuque. Après ça, on le voit un peu dans les psaumes, puis on le voit surtout dans les livres prophétiques, où on arrive à voir, à entendre que Dieu considère tout ce qui se passe sur toute la terre. Et Dieu n'a pas simplement une lorgnette pour voir simplement un minuscule petit pays, parce qu'Israël, c'est rien du tout, comparativement à l'ensemble de la terre, mais comme si Dieu voyait seulement cela. En même temps, c'est vrai, ça demeure vrai, ça l'est encore aujourd'hui, Dieu appelle des individus, Dieu appelle un peuple, il appelle Israël à porter son nom. Il appelle tous les hommes, mais il intervient de manière absolue, je dirais, envers un certain nombre d'individus qu'il va choisir. Parmi l'ensemble des pécheurs de la terre, il va dire, « Vous autres, je vais faire reposer ma gloire sur vous. Vous allez répondre à mon appel. » Et on répond à l'appel de Dieu. Puis on est là pour porter la gloire de Dieu. Et à partir de ce moment-là, parmi toutes les nations de la terre, et c'est encore le cas aujourd'hui, là, si vous regardez combien est-ce qu'il y a de chrétiens, pas les chrétiens nominaux, des gens qui marchent vraiment avec Dieu, on est une minorité là, d'accord, sur la terre. Donc, Dieu est en train de dire, c'est sur vous qu'est mon regard, c'est sur vous que va reposer ma gloire. Et au jour du jugement final, il va y avoir peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que j'ai éclairé un petit peu votre question? J'ai l'impression de voir deux points d'interrogation dans vos yeux. Là. Je ne suis pas sûr. Stéphane, tu veux faire un commentaire qui peut aider? La semaine prochaine avec Jonas. Une chose qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que lorsqu'on lit les Écritures, spécialement l'Ancien Testament, parce que bon, le Nouveau Testament, c'est comme si on arrive à se réconcilier, on se dit, ben là, il nous a envoyé vers toutes les nations. OK, il n'a pas oublié le monde. Oui, mais moi, je vous invite à lire l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte que ça a pris du temps en Titi avant qu'on se rende en Chine. Donc, est-ce que Dieu a oublié tous les Chinois? Lorsqu'on arrive devant toutes ces questions-là, ce qui est troublant pour nous, c'est qu'on se dit, oui, mais Dieu n'a pas envoyé ses messagers partout. Donc, Dieu a abandonné tous ces gens-là. C'est plus complexe que ça comme question. Parce que même lorsque Dieu envoie ses messagers, ça ne change pas nécessairement grand-chose. La preuve, c'est que lorsqu'il a envoyé son fils, ben, je veux dire, il était vraiment, vraiment, vraiment hot. Ils l'ont ramassé, puis ils l'ont cloué sur un bois. Puis ils ont dit, toi, tu viens du diable, man. Tu viens pas de Dieu. Écoute, c'était Dieu, là. Là, il était incarné, puis il se promenait partout, puis le monde sortait des tombeaux, là. Tu sais, non. Alors, Il faut jamais perdre, puis c'est pour ça que je vous dis, c'est important de comprendre toute l'histoire des Écritures. La race humaine porte dans ses veines une malédiction divine qui fait que nous rejetons fondamentalement Dieu. Et c'est pas parce que Jésus apparaîtrait devant les gens que vous aimez puis voudriez les voir se convertir. Et c'est pas parce que Jésus apparaîtrait devant eux puis qu'il pourrait mettre les doigts. Tu sais, Thomas, là, on va le voir tantôt, Thomas, il a cru. Mais il n'y a absolument rien qui dit que parce que là, toute l'humanité ferait la queue, puis chacun on irait comme touché au trou, tout le monde se mettrait à croire. Pas du tout, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Jésus dit, les pierres commenceraient à chanter ou à proclamer des louanges, ça ne changerait pas nécessairement grand-chose. Ils étaient devant lui, ils avaient toutes les évidences, ils l'ont crucifié, c'était son peuple, là. On s'entend? C'est son peuple qui avait toute la révélation. La nature humaine est telle que nous ne nous rebellons pas contre Dieu par manque d'information. Ça fait-tu du sens ce que je dis là? Nous ne rejetons pas Dieu par manque d'information. Nous rejetons Dieu parce que nous sommes fondamentalement rebelles. D'accord? Alors, lorsque vous êtes en train d'élever vos enfants, vous n'allez pas réussir à réformer leur cœur en leur donnant plus d'informations. On leur donne une direction pour qu'ils puissent voir la voix de Dieu, puis on les appelle à entrer dans ça, et on prie Dieu afin qu'il intervienne dans leur cœur. D'accord? C'est ça qu'on fait. Mais les êtres humains sur la terre ne rejettent pas Dieu par manque d'informations. C'est pas vrai, ça. Les êtres humains sur la terre rejettent Dieu parce qu'ils sont profondément rebelles et méchants. Et donc, on est dans un... Notre vision du monde est en conflit direct avec une vision du monde beaucoup plus naïve qui dit, si on éduquait plus les hommes seraient bons. D'accord? On sait tous que tous les gens qui vont étudier à Harvard sont des gens altruistes qui n'abusent pas des êtres humains sur la terre. On sait tous ça, n'est-ce pas? C'est à ça que ça conduit, c'est ça? Mais non. Une vision lucide de l'homme et la connaissance donne aussi beaucoup de pouvoir qui permet d'abuser un peu plus les pauvres, d'accord? C'est la réalité. C'est ça, c'est la vision du monde. En termes très contemporains, là, les gens autour de vous, si vous lisez des articles un petit peu, vous allez voir ça, on parle de vision du monde, des world views. Notre vision du monde, pourquoi l'univers existe, qu'est-ce qu'est l'être humain, fondamentalement qu'est-ce qu'il est en conflit direct avec la vision du monde qui est généralement transmise, d'accord? Et par exemple, nous on est au Québec, on est dans un État plus socialiste. Un État plus socialiste croit encore plus qu'avec un peu plus d'éducation, tu peux réformer n'importe qui. Puis on a des conflits lorsqu'on voit que, hop, OK, on vient de sortir celui-là de prison, on vient de sortir, il est à son 18e viol. On va l'éduquer un peu plus, puis on va y arriver. Et donc, ça c'est l'approche. Mais là tu as des conflits de société, parce que là, tu dis, ouais, mais là, à un moment donné, non, il y a un problème entre les deux oreilles, on va essayer des pilules. T'sais. Mais jamais on adresse la question de dire, oui, peut-être que le cœur a besoin d'être transformé. D'accord? Et donc, ça, c'est la vision chrétienne du monde. C'est ça. Et il faut pour nous que ce soit clair, parce que puisqu'ils ont une autre vision du monde, lorsqu'ils arrivent devant des textes comme ceux-là, ils disent, mais Dieu est immoral. Dieu est un être immoral. C'est là que ça les conduit. Et je suis conscient, je l'ai dit l'autre fois, je suis conscient, là, je ne voulais pas passer autant de temps là-dessus ce matin, là, mais je suis conscient que lorsqu'on commence à faire ces réflexions-là, tout ça peut avoir de la très, très, très philosophique, d'accord? Puis vous dites, bon, OK, Yannick, je t'ai suivi, puis là, on termine, mais demande-moi pas d'expliquer ça à mon voisin. Moi, je vous dis que la majorité des chrétiens doivent se familiariser avec ces questions-là, d'accord? Parce qu'autrement, vous allez être très, très, très rapidement... Vous allez perdre votre auditeur quand vous partagez l'Évangile. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Ce sont des choses qui s'apprennent, qu'on peut comprendre. D'accord? Je ne suis peut-être pas le meilleur vulgarisateur. Donc on essaie de vous communiquer ces choses-là. On essaie de les enseigner. Ça peut prendre du temps. Mais quand j'arrive à quelqu'un et que je viens juste, simplement avec ma présentation de l'Évangile, bang, d'un coup, il faut que je sois assez à l'écoute pour dire, OK, attends un peu, je viens de le perdre, là, parce que Dieu est un être immoral. J'ai parlé de l'enfer, Dieu est un être immoral. Puis, si je ne comprends pas ça, ce que je vais faire, c'est que je vais comme chercher à éviter ces questions-là pour aller trouver tous les bons petits morceaux qu'il y a dans la Bible qui passeraient avec tout le monde. T'sais? Non, non, attends un petit peu, il y a un verset qui dit que tu es une créature merveilleuse. C'est cool, ça, je peux te dire ça? Ça te plaît? Oui, ça lui plaît, mais je veux dire, si tu veux qu'il saisisse l'Évangile, il va falloir qu'il comprenne pourquoi Jésus est mort sur la croix et qu'il était destiné à l'enfer. D'accord? Donc, il faut que je puisse me rendre là aussi. Je ne peux pas toujours aller juste là. Jésus le faisait. Jésus va vers les gens, parle de leurs besoins qu'ils ressentent, puis il dit, c'est moi la réponse à ton besoin. Mais il va plus loin que ça aussi. Là. Il dit, c'est aussi moi le seul moyen de te sauver du châtiment à venir. D'accord? Fait que découragez-vous pas, ça a l'air comme trop compliqué, mais surtout n'abandonnez pas. Dites-vous pas, ah, OK, le gars en avant, il est brillant, il sait dire ça. Moi, quand j'écoute du monde plus brillant, m'expliquer ces affaires-là, je dis, « Oh, Seigneur, si tu m'as donné plus d'intelligence, j'arriverai à catcher de quoi plus que ça, tu sais. » Quand j'écoute Al Mohler, qui va venir à Sola cet automne, je termine, puis je dis, « OK, résume-moi ça encore en trois phrases. » Puis ça rentre, ça rentre, ça vient tranquillement. Alors, revenons dans notre livre, s'il vous plaît. Contexte historique, j'ai commencé à le mentionner tout à l'heure. Donc, pour saisir ce qui se passe ici, ce conflit-là, pourquoi est-ce qu'il y a des allusions, par exemple, Dieu juge Édom, puis il parle de son frère Jacob. Mais c'est ça, il faut retourner dans l'histoire. Alors, si vous regardez au haut de la deuxième page, donc au verso, Genèse 25, 23, et l'Éternel lui dit, alors, Dieu est en train d'annoncer aux parents qu'est-ce qui va en être de ces deux jumeaux-là qui vont naître, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. C'est des frères. Donc, ça devrait être une nation, mais non, c'est deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est la naissance d'Ésaü et de Jacob. Le conflit commence à se manifester avec la chicane autour d'un bol de soupe. D'accord? Faudrait aller relire ça dans l'histoire, là. J'ai pas vraiment le temps de m'étirer sur ça, mais à ce moment-là, Ésaü a abandonné son droit d'héritage, son droit d'aînesse, puisqu'il était l'aîné, il était le premier des deux jumeaux qui est né. Donc, il y avait certains droits. Et il a renoncé à ça à ce moment-là, simplement par, je ne sais pas comment le dire, là, par gourmandise ou quoi. Disons que c'est ça. Il voulait ce que son frère avait préparé. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est comme déclenché, qui est enclenché pour l'avenir aussi. Il va y avoir un conflit qui va naître entre ces deux frères-là. Et ce conflit-là va se perpétuer dans l'histoire. Une nation va naître d'Ésaü, ce sont les Édomites. Une autre nation de Jacob, ce sont les fils d'Israël, les fils de Jacob, les Israélites, d'accord? Qu'on appelle généralement les Juifs aujourd'hui, là. Donc, Genèse 27, 39 à 40, Isaac, son père, répondit et lui dit. Alors, le Jacob, qui n'était pas nécessairement un homme toujours straight, s'est arrangé pour que le père vienne prononcer la bénédiction sur lui au moment où le père rapprochait de sa mort. Lui s'était dit, j'ai le droit d'aînesse, tu me l'as donné plus tôt, alors il faut que j'aille le chercher, maintenant je veux la bénédiction qui vient avec. Et donc, sur Jacob est prononcé la bénédiction qui devait être prononcée à l'aîné. Puis encore là, culturellement, il faudrait aller voir c'est quoi une bénédiction, tout ça. C'est comme une sorte de prière où tu appelles la faveur de Dieu sur quelqu'un. Maintenant, voici ce qu'il dit à Ésaü, puisque Jacob a eu la plus belle part de la bénédiction. Isaac, son père, lui répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » D'accord? Alors, c'est pas joyeux pour l'aîné. Tu es en train de dire, en fin de compte, tu ne seras pas prospère, ta terre ne sera pas productive, vous êtes un peuple de chasseurs, Jacob va toujours être plus puissant que toi, et puis c'est vraiment juste en te révoltant que tu vas réussir à te tirer de son emprise. Dans le paragraphe qui suit, on fait référence à différents passages, justement, dans l'Ancien Testament, où on voit ce conflit perpétuel entre les Édomites et les Israélites, d'accord? Je n'ai pas le temps de prendre le temps de les voir, mais vous pourriez prendre le temps d'aller lire ça. Puis certains historiens, le dernier paragraphe juste avancé, certains historiens notent que la nation d'Édom aurait connu l'apogée de son succès ou de son pouvoir entre 700 et 600 avant Jésus-Christ, mais qu'elle aurait été détruite au cours de la seconde moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans le livre d'Abdias, Dieu annonce que la nation va être littéralement détruite. D'accord? Alors ça, c'est le contexte, c'est l'arrière-plan historique derrière le livre d'Abdias, derrière ce conflit-là. Puis on arrive à la culmination de ce conflit-là qui est né lors de la naissance de ces deux frères-là. Quel est le message qu'on peut tirer de ce livre-là? Qu'est-ce que Dieu est en train de communiquer dans des termes qui nous aident à comprendre des choses sur Dieu? Premièrement, est-ce que Dieu a des ennemis? Tantôt, je parlais de vision du monde, de vision de Dieu. Bien, généralement, si tu approches les gens et tu leur dis que Dieu a des ennemis, ils vont dire, attends un peu. Je pense que les Occidentaux, par réflexe, diraient peut-être si tu es musulman, tu vas dire, OK, tous ceux qui sont les ennemis des musulmans sont les ennemis de Dieu. Peut-être que ça serait une vision de Dieu. Mais généralement, les Occidentaux diraient, non, je ne pense pas que Dieu a des ennemis. Dieu est amour. Dieu ne peut pas avoir d'ennemis. D'accord? Dieu a définitivement des ennemis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu n'avait pas d'ennemis, ça voudrait dire que Dieu trouve vraiment qu'on est hot et que tout ce qu'on fait sur la terre, c'est génial. Et que c'est absolument génial qu'on s'entretue, qu'on abuse les uns des autres, que les hommes violent les femmes, tout ça. Dieu est amour puis tout est cool dans tout ça, d'accord? Non, Dieu a des ennemis. Tous ceux qui font le mal sont des ennemis de Dieu. Tous ceux qui ne craignent pas Dieu, qui rejettent Dieu, font le mal, ça les conduit aussi dans d'autres choses, et ils sont donc les ennemis de Dieu. Dieu a des ennemis. Qui est l'ennemi de Dieu? La manière qui nous est décrit ici, bien, c'est l'orgueilleux. Dans les versets 1 à 16, il est vraiment question de l'orgueil d'Édom, qui n'a pas agi selon Dieu. Lorsqu'il a vu Israël, qui était châtié par Dieu, d'accord, toutes les descriptions qu'on a ici où Israël est attaqué par d'autres peuples, puis Édom est là, puis fait juste comme donner un coup de pied, juste donner un coup de main, tu sais, prête ses armes, va donner un coup de main. Quand les autres sont passés, vient ravager les villes, terminer le travail, tue les fuyards d'Israël, tout ça. Dieu est en train de juger Israël pendant ces périodes-là. Et Édom, qui est frère d'Israël, d'accord, c'est les descendants d'Ésaü, n'agit pas selon Dieu à ce moment-là. N'agit pas selon Dieu parce que selon Dieu, il aurait pas dû collaborer à ça, il n'aurait pas dû assister à ça, il n'aurait pas dû appuyer ça. Ce n'était pas le bien qu'il était en train de faire, d'accord? Et donc, on pourrait le résumer comme ça. Les ennemis de Dieu sont les orgueilleux. Et j'ai quelque chose là lorsque j'annonce l'Évangile. J'ai quelque chose là, d'accord? Oui, Suzy. Les deux. Je vais répéter ta question. Suzy me demande si, lorsque je dis que Dieu a des ennemis, est-ce qu'on parle de la perspective de Dieu? Dieu considère que des gens sont ses ennemis ou certaines personnes considèrent que Dieu est leur ennemi? Moi, je dis c'est les deux. Oui.
Entre je t'ai dit, tu es mon ennemi, je m'acharne sur toi, et tu ne veux rien
contre moi,
je te prends
un
pitié, je te laisse.
Oui. Alors, la question de Suzy, c'est est-ce qu'on va trop loin en disant que. Je vais le mettre dans mes mots, là. Trop loin en disant que Dieu a des ennemis. Toi, tu proposes plutôt peut-être l'idée que Dieu fait juste livrer l'homme à lui-même si l'homme ne veut pas marcher avec lui, puis ça le conduit dans la folie puis dans le mal. Non, les Écritures sont sont claires. Dieu fait les deux. Dieu fait les deux. Alors, Dieu, trois choses. Dieu a compassion de l'homme dans sa stupidité puis dans sa méchanceté. Dieu a compassion du méchant. D'accord? Dieu livre le méchant lui-même. Et éventuellement, Dieu châtie le méchant. Dieu n'est pas simplement passif en train de regarder ce qui se passe sur la terre puis de dire... Je vous donne deux options. Si vous marchez avec moi, je vais vous accompagner, je vais vous aider. Si vous ne marchez pas avec moi, je vous laisse à vous-même. Ce n'est pas le récit biblique, surtout pas dans les livres prophétiques. C'est très clair dans les livres prophétiques. Ce n'est pas ça. Il y a de ça, mais il y a le moment aussi où Dieu dit, j'arrive maintenant. Puis j'ai vu toutes les abominations que vous avez faites contre un autre peuple païen. Puis toutes ces choses-là ne me ressemblent. Moi, je suis votre créateur. Vous ne me ressemblez pas du tout. Vous ne m'honorez pas. Vous vous en prenez au plus faible. Je m'en viens vous châtier. Et Dieu se comporte comme l'ennemi du méchant. C'est très clair. Et si vous lisez l'Apocalypse, on arrive à cette réalité-là aussi. Le jugement éternel de Dieu ne va pas être de dire, « OK, tous ceux qui n'ont pas marché avec moi, je vais vous faire une petite boule, puis je vais vous laisser là pour l'éternité entre vous. » D'accord? Quand les gens vont être condamnés pour l'éternité, peut-être qu'ils vont se picosser entre eux, ça ne me surprendrait pas. Mais le point n'est pas ça dans ce qui est décrit. Ils vont savoir qu'ils sont là parce que c'est un châtiment divin éternel sur eux. Donc, c'est un conflit entre Dieu et la personne.
Je laisse ma justice prévaloir ou bien non, je m'acharne
Oui. 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 Alors, Suzy a dit, il y a comme une gradation qui est peut-être un peu trop loin, de dire que Dieu va exercer sa justice en les livrant eux-mêmes, peut-être, ou qu'il va s'acharner en allant les frapper. Les deux sont clairs dans les Écritures. C'est très clair. La justice de Dieu, c'est la droite de l'Éternel qui vient frapper le méchant. Parce que Dieu n'est pas un être. Dieu, c'est comme si on disait, mettez-le dans notre société, là, c'est comme si vous imaginiez un juge qui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il juge, il qualifie la valeur morale des actions des gens sans leur appliquer une sentence. D'accord? Alors, je ne sais pas, moi, je me chicane avec Gérard, puis je vole sa voiture. Puis là, Gérard m'amène en cours, tout ça. Puis là, le juge, il dit, monsieur Etier, vous avez volé une voiture. C'est quelque chose qui est mal. Bonne journée. Tu comprends? Puis, soit dit en passant, comme je viens de prononcer un jugement sur vous, toute la ville de Longueuil le sait que vous êtes un voleur. Ça va être dans les médias. Bonne journée. Vous arrangerez avec votre histoire maintenant. Vous essayerez d'aller emprunter une voiture à un autre voisin. Non, Dieu fait plus que ça. Il dit, maintenant, monsieur Etier, vous allez 10 ans en prison. Et donc, ça, c'est la droite de l'Éternel. Si tu veux une référence là, pour aller le voir dans les Écritures, cherche le bras de l'Éternel, la droite de l'Éternel, c'est l'épée. C'est l'épée. Et donc, déjà actuellement, ce juge-là qui fait ça est l'épée de l'Éternel, c'est ça que Paul nous dit. Mais Dieu exerce aussi ce jugement-là à travers toutes sortes de facteurs, cataclysmes, nations, toutes sortes de facteurs, il exerce des jugements. Mais un jour viendra où tout homme va comparaître devant lui, et Dieu va exercer, sa colère va être là. Et donc, c'est vrai, lorsque John Piper dit, « Mais où est-ce qu'il est Dieu là, devant tout le mal qu'il y a sur la terre? » Il est en train d'amasser une montagne de colère. Parce qu'il prend des notes. Il prend des notes. Actuellement, on voit certaines choses qui se passent, puis on dit, « Mais s'il y a un Dieu, il est bien sévère. » Oui, Dieu exerce plein de jugements sur la terre contre le mal. Un jour vient où il va sortir son calepin au complet, puis il va dire, c'est le jour de l'Éternel, pour revenir à la question de Mme Paradis. Et là, je vais régler toutes ces questions-là, d'accord? Et il faut comprendre ça pour comprendre tout l'Évangile. Je ne dis pas pour être sauvé, mais pour comprendre tout l'Évangile. Parce que ce que Christ a subi lorsqu'il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la droite de l'Éternel, le bras de l'Éternel qui est venu s'abattre sur Christ pour tous ceux qui vont croire en lui. D'accord? Et donc, ce que Christ a subi là, c'est pas juste, regarde, Jésus, je vais te prendre pendant 3 jours, je vais t'envoyer en enfer avec les démons ou vous allez être comme livré à vous-même. Tu sais? Non. Le drame de Jésus sur la croix, c'est pas de dire, tu me livres à un état de pécheur. C'est, tu me regardes dans les yeux et tu dis, je t'haïs. Je t'haïs pour te détruire. Parce que pour moi, tu es devenu tout le péché de tous ceux qui vont croire en toi. Et c'est comme ça que je te vois. Et il faut que ma justice s'exerce à 100%. Ça va? Ça va? Cherchez la droite de l'Éternel, le bras de l'Éternel. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Et c'est sa bonté d'être comme ça. Et il faut vraiment cheminer avec les Écritures pour comprendre ça. Mais je vous dis, ce ne serait même pas une question v'là 100 ans. V'là 100 ans, tout le monde, ça serait comme « Ouais, on attend juste ça! » Mais on est à une autre époque. Oui? Pardon? Oui? Oui. Oui. Mais. OK, mais est-ce que tu as de la difficulté, c'est avec l'idée que Dieu peut haïr, c'est ça? C'est un petit peu ça, là, si je comprends. C'est ça. C'est ça. Alors moi, je vous dirais, voici ce que je vous dirais, d'accord? Là, je vais vous amener, là, puis ça va peut-être être un peu ça qui va finir ce matin, mais je vais essayer de vous amener dans les sentiments que Dieu peut vivre. Admettons que vous avez 2 enfants, d'accord? Un garçon puis une fille. On est entre adultes ici, là, ça va être un peu cru ce que je vais dire. Vous avez deux enfants, un garçon puis une fille. Je ne suis pas en train de prendre l'image parce que tu as un gars puis une fille. J'ai un gars puis une fille, d'accord? Mais pour mon image, ça prend ça. Vous avez un garçon puis une fille. Votre garçon vire mal. Votre garçon vire mal, commence à faire des choses qui sont cruelles, qui ne sont pas bien, tout ça. Puis il fait du mal à des gens autour de vous, tout ça. Mais vous voyez sa folie. Puis vous êtes pris entre de la colère contre lui parce qu'il fait le mal, puis ça fait du mal à des gens, puis vous avez honte de ce qu'il fait, puis vous ne voudriez pas qu'il fasse ça, mais vous êtes aussi mêlé avec de la compassion parce que c'est votre enfant, puis vous aimeriez tellement le sortir de ce comportement-là. Puis vous voyez qu'il est malheureux, il est la première victime de ses propres péchés, comme on dit toujours. D'accord? Vous voyez tout ça. Mais votre fille aussi va mal. Votre fille va mal parce qu'elle est troublée psychologiquement, parce que ça va pas, parce qu'elle n'arrive pas à fonctionner, puis mettez-en autant que vous voulez, automutilation, tout le kit. Vous apprenez, 20 ans plus tard, que pendant toute son enfance, votre fils a violenté sexuellement votre fille, cruellement. Puis vous apprenez tout ça. Quels sont vos sentiments envers votre fils? Est-ce que c'est juste de la compassion, puis vous voulez qu'il sorte de là, ou est-ce que vous vous promenez entre la haine de ce qu'il a fait à votre fille? Comprenez-vous? Vous allez vous promener en toutes ces choses-là. D'accord? Et donc, on lit dans les psaumes que Dieu haït le pécheur. Ça n'empêche pas Dieu, qui est tellement plus amour que moi, d'avoir compassion de celui qui l'haït. D'accord? Pour nous, ce sont des choses qu'on ne peut pas associer ensemble. D'accord? Mais Dieu lui voit toute l'horreur et il sait que tout ça origine du fait que l'homme regarde Dieu en pleine face et il dit: tiens, va jouer ailleurs, je veux rien savoir de toi. Il y a tout ça, il y a toute cette perspective-là qui est là, d'accord? Et donc, Dieu peut à la fois aimer et haïr quelqu'un pour le mal qu'il fait, pour ce qu'il a choisi d'être comme individu et pour les actes qu'il a décidé de faire. Ce qui est difficile pour nous accepter, c'est que nous, on est de l'autre bord, justement. On est du côté de ces individus-là, puis on se dit, oui, mais je ne suis pas 100% coupable de tout ça. C'est en partie contre mon propre gré que j'ai fait ça, tout ça. Dieu dit non, il faut que tu assumes ce que tu fais. Et donc, tu dois assumer ce que tu fais. Fait que Dieu aime, Dieu a compassion, puis Dieu est. Il haït. Et c'est pour ça que notre salut ne s'est pas passé comme une transaction financière. Notre salut, c'est pas. Puis c'est important de saisir ces choses-là parce que lorsque j'arrive à Pâques, puis je veux adorer Christ, puis je le vois sur la croix, puis je vois sa résurrection, puis je vois ses plaies. C'est pas comme c'est pas un film d'Hollywood où Dieu a dit regardez, je vais vous prendre par les émotions. Non, ce qui se passe sur la croix, c'est pas une histoire entre Dieu et les hommes premièrement, c'est une histoire entre Dieu et Dieu. Et si c'est aussi sanglant puis aussi violent, c'est parce que ça représente tout le sentiment de Dieu envers le mal et son fils est devenu péché à ce moment-là, il est devenu mal. Est-ce que sachant que Dieu est Dieu, sachant qu'il est tout-puissant, est-ce que vraiment vous avez l'impression, en voyant Jésus sur la croix, qui est massacré, puis que Dieu ne vient pas sortir de là, est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est une scène romantique, tu sais? Mon fils, va, sacrifie-toi pour eux. Oui, papa, je m'en vais me sacrifier pour toi. Moi, ce que je vois, c'est vraiment de la haine puis de la colère de la part de Dieu. Dieu qui livre son fils aux mains d'êtres abominables, qu'il méprise. Et puis à la fin, le fils qui crie « Pourquoi m'as-tu abandonné? » La réponse est là, là. La réponse est là. Parce que je te hais en ce moment, mon fils. Parce que tu représentes tout ce que c'est de me rejeter. Toi, actuellement. Le grand paradoxe, c'est que ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Il est en train d'obéir parfaitement à son père. Mais il savait, lui, c'est ça qu'il appréhendait. C'est ce jour où Dieu allait l'haïr profondément parce qu'il devenait le mal lui-même. Et c'est ça qu'il prend à ce moment-là. Ça aide-tu un peu? Oui, mais c'est réducteur. C'est réducteur. C'est réducteur. Dieu aime le pécheur, puis il haït le pécheur. Dieu aime le pécheur. Oui, les Écritures sont claires, c'est clair. Dieu n'est pas juste le mal. Il est celui qui fait le mal. Ça ne l'empêche pas d'avoir compassion de celui qui fait le mal. D'accord? On va terminer avec un mot de prière. On continuera cette conversation-là une autre fois. C'est pas que je veux l'esquiver, d'accord? C'est juste que le temps file. Je vous invite à lire. Il y avait encore deux beaux petits messages dans le livre d'Abdias pour vous dans les notes. On va terminer ensemble dans un mot de prière. Éternel notre Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux penser à cette résurrection. Cette résurrection qui me dit que tu n'en es pas resté qu'à la colère contre ton fils qui est devenu péché. Mais au contraire, tu as agréé son sacrifice, Seigneur. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tu lui as donné la vie. Et Seigneur, c'est par ce sacrifice et par cette résurrection que nous pouvons être réconciliés avec toi. Et c'est ça que nous voulons célébrer aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie de m'avoir donné la vie, Jésus. Je te remercie de cette vie qui est maintenant en moi. Non seulement tu m'as pardonné, mais tu m'as donné ton esprit. Et Seigneur, je le sens, je le vois, je le vis, je sens en moi cette vie nouvelle qui me transforme profondément. Jamais assez vite à mon goût, Seigneur. J'ai trop souvent honte encore des pensées qui sont en moi, des paroles qui sortent, des gestes que je pose, Seigneur. Mais je vois bien cette vie nouvelle qui est en train de me transformer à ton image. Et tout cela, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Je veux t'adorer. Amen.